Lorsque je prépare des couples au mariage, je pose souvent la question suivante aux futurs mariés. Qu'est-ce que vous ne seriez pas prêt à pardonner à l'un ou à l'autre? Et souvent, c'est la question de l'infidélité conjugale qui revient. L'évangile de ce jour nous parle d'un thème bien connu qui est celui donc de l'adultère, de l'infidélité conjugale. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne parle pas de l'homme hein, qui a commis le péché, on parle que de la femme. Et ce thème-là d'infidélité conjugale a nourri beaucoup la littérature. Si vous avez le temps, lisez tous les Rougon-Macquart, il y a 20 volumes chez Zola, et en fait vous vous apercevrez que la question de l'infidélité conjugale eh ben, est un thème qui revient. Je voudrais ce matin que nous nous mettions toutes et tous à la place de cette femme adultère en réfléchissant à nos propres infidélités. Le message est le suivant, il est important de sortir de nos infidélités pour retrouver la confiance individuelle et collective en Dieu. L'importance de sortir de nos infidélités pour retrouver la confiance individuelle et collective en Dieu. De quoi parle-t-on quand on parle d'infidélité? Alors c'est évidemment le fait de manquer de fidélité, de respect à un engagement pris, une forme de déloyauté ou une manque de constance dans l'engagement pris. Et quels que soient nos états de vie, ben, il y a différentes formes d'infidélité. L'infidélité des plus jeunes, vous savez, quand on dit on va mettre la table, puis qu'on est toujours sur la tablette. Quand on dit je vais faire mes devoirs et qu'on est toujours sur la tablette. Ou simplement quand on dit je soutiens un ami et que finalement on ne prend pas le temps de l'écouter ni de prendre soin de lui. L'infidélité conjugale, elle n'est pas que sexuelle. Il y a un terme technique qui s'appelle aujourd'hui l'ergomanie. L'ergomanie, c'est la personne qui est dépendante de son travail et qui ne vit plus que pour son travail. Et qui peut mettre en danger sa vie conjugale. Lorsque le sport à haute dose remplace toute vie conjugale. Lorsque la vie associative, voire la vie ecclésiale, est une suite finalement de fuite vis-à-vis de la vie familiale. Sans oublier le téléphone portable qui est source de dispersion. Et ainsi, c'est le détachement aux engagements pris. Il y a l'infidélité dans la vie religieuse, lorsque les distractions prennent le pas sur la prière, lorsqu'il y a un manque de soutien fraternel au sein de la communauté, ce fameux petit coup de main qui permet de faire unité dans la vie communautaire, ou l'acédie, ou l'aigreur qui rend finalement assez bas, eh ben, ce pourquoi on s'est engagé. Il y a l'infidélité dans le ministère de prêtre. Bon, c'est tout le reste. Sortir de nos infidélités, c'est simplement d'abord d'en être conscient. Et je pense que le temps du carême, c'est un temps de lucidité personnelle. En fait, c'est un temps où on ne peut pas se tromper à soi-même. Où on est comme le fils cadet dans la parabole du fils prodigue que nous avons entendu dimanche dernier, dans ce mouvement d'entrer en nous-mêmes. Donc il faut qu'on fasse un petit examen de conscience pour nous dire finalement où sont nos infidélités. Mais il y a un mais. On pourrait croire qu'on peut sortir de nos infidélités par un activisme volontaire, à la force du poignet, comme les faisaient les Cathares au XIIIe siècle. Que fait la femme adultère? Est-ce que pour sortir de son infidélité, elle va avoir une action? Eh bien non. La seule chose dont on sait, c'est cette réponse très courte qu'elle fait à Jésus. Personne ne t'a condamné, lui demande-t-elle. Et elle dit simplement, personne Seigneur. En revanche, elle prend la main que le Seigneur lui tend pour se relever. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. On voit un peu le même mouvement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, où Jésus marche sur les eaux et Pierre le rejoint. Et au moment où il a l'impression de s'engouffrer, Jésus lui tend la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il nous est important de sortir de toute forme d'activisme ou de toute volonté personnelle pour avoir une confiance résolue et inébranlable en un Dieu qui nous sauve de toutes nos infidélités. Pour les plus jeunes, lorsque vous doutez, lorsque vos angoisses vous prennent, n'oubliez jamais cette phrase, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et regardez Paul dans la seconde lecture. Paul, le meurtrier des premiers chrétiens qui fit sa conversion sur le chemin de Damas, il mène une vie nouvelle, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Ben, c'est un peu ça qui nous est demandé. C'est-à-dire avoir foi en notre propre rédemption, avoir foi en notre propre résurrection, pour que le Seigneur puisse nous relever de nos infidélités. Et c'est pourquoi il est important, alors le terme est complètement désuet aujourd'hui, mais les plus anciens se souviennent qu'il fallait faire Pâques. Et faire ses Pâques, ben ça signifiait aussi, et c'est un des moyens, de recevoir le sacrement de la réconciliation, où justement, on peut dire, eh ben, les infidélités qu'on a pu avoir. Il y a une deuxième limite. La deuxième limite, ça serait d'un rapport exclusivement personnalisé de son salut. J'ai mon Dieu, j'ai mon Jésus qui me permet de me sauver de mes infidélités. Mais ne croyez pas que notre résurrection personnelle, notre propre rédemption, nous concerne que nous, individuellement. La résurrection personnelle conduit à une confiance renouvelée en Dieu, et c'est un bienfait pour tous qui permet de construire le royaume de Dieu, qui est un royaume de justice et de paix. On a eu la chance ce matin d'entendre le psaume 125. C'est un psaume de la montée, c'est-à-dire quand les pèlerins allaient vers Jérusalem, ils récitaient un certain nombre de psaumes, dont ce psaume 125, en arrivant sur Jérusalem. Et on a eu la chance de l'entendre dans son intégralité, ce qui est assez rare finalement, d'entendre des psaumes dans leur intégralité. Et ce qui me semble le plus important dans ce psaume, c'est le « nous ». Pour dire que la joie, elle n'est pas individuelle, mais elle est collective. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, c'était pas « j'étais en rêve », nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Notre résurrection, notre rédemption, qui signifie finalement donner la meilleure version de nous-mêmes, conduit à la liberté de l'homme et conduit à la joie de la communauté au bonheur. Encore une fois, dimanche dernier, dans le récit de la parabole du fils prodigue, il était question du banquet organisé pour le retour du fils. Donc la joie d'un ensemble de personnes du retour du Fils, qui est passé de la mort à la vie. Pourquoi c'est si important aujourd'hui, maintenant, d'insister sur retrouver la conscience et la confiance collective en Dieu? Parce qu'on a un rapport très individualisé de notre foi. Parce qu'on vit dans un pays de plus en plus atomisé entre différents courants de pensée qui ont chacun leurs médias et qui ne se parlent pas. La semaine que nous avons de passer, faisons foi. Les réseaux sociaux et les algorithmes qui nous poussent à voir toujours le même, qui nous poussent jamais à voir ce qui est différent de nos sensibilités ou de nos opinions. C'est pour ça qu'il est très important de retrouver la confiance en Dieu, le pardon qui sauve et de favoriser ainsi la joie pour tous. Je conclus. Finalement, on peut se poser ensemble ce matin quelques questions. Quelle démarche sommes-nous prêts en vue de notre propre résurrection que nous fêterons dans 15 jours? Va-t-on oser vivre cette rédemption en confiant nos infidélités au Seigneur? Agneau de Dieu, qui enlève les infidélités du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les infidélités du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les infidélités du monde, donne-nous la paix.